c'est le blocage et sur son effet sur le DNSSEC. Je suis heureux d'avoir Jamie Hedlund de ICANN et Patrick Holtzholm de Cisco et le président de ESSAC et tout un groupe d'experts DNSSEC et ils vont venir également. Donc, je voulais être bref. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de filtrage ou de blocage DNS? Et pour, aux fins de clarité, quand on parle ici, on parle d'une technique quelque part dans la chaîne DNS pour interférer ou bloquer la résolution, la traduction DNS. Et pourquoi ça se passe? Il y a peut-être pour des activités criminelles, mais dans ce cas-ci, nous voyons davantage de pression des gouvernements et des entités gouvernementales pour interférer pour les violations de droits d'auteur et pour lorsque les contenus sont indésirables et les DNS et les registres commencent à sentir la pression de leur gouvernement pour voir comment est-ce qu'on peut introduire un filtrage ou un blocage DNS. Donc, c'est vraiment très intéressant, mais la pertinence pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour le DNSSEC et pour nous? Nous avons deux grands experts qui vont nous en parler. Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir... Jamie peut nous mettre à la page en termes de législation aux États-Unis et en Europe là-dessus. Merci. Il y a quelqu'un qui manque aux panélistes parce que je ne suis pas un expert, vraiment. Il manque quelqu'un, là. Mais merci pour l'introduction. Je voulais dire brièvement quelques mots sur ce qui est l'ordre du jour à Washington, D.C. Désolée, merci, Jean. Ça va mieux? Donc, je voulais être bref sur le jeu, les termes du jeu à Washington ou la législation en cours qui demanderait d'un certain sens que les ISP, les opérateurs de nom de serveur, de nom de serveur, pour faire le filtrage DNS, pour empêcher l'accès aux sites illégaux. Et Patrick en parlera davantage, mais c'est également quelque chose qui est refait à travers le monde dans la législation et au niveau du contentieux. Au moins, on commence tard en 2010. La commission judiciaire du Sénat, qui est la commission aux États-Unis, qui s'occupe des problèmes de violation de droits de propriété, de la propriété intellectuelle, qui ont fait un effort législatif pour protéger les droits de propriété. Dans ce cas-ci, c'était pour bloquer l'accès par les utilisateurs américains vers le contenu illégal à la fois aux États-Unis et à l'étranger. Il y avait deux éléments, deux aspects, deux volets. Un premier, c'était l'autorisation de la police de saisir des domaines, des registres, des registraires locaux, domestiques et américains. Et depuis lors, ils ont laissé tomber cela parce qu'ils ont déjà l'autorisation. Pas de nouvelle législation sera nécessaire. Second volet, à la suite des confiscations de noms de domaine, le contenu ou le comportement était déplacé en dehors des États-Unis vers des registraires et des registres non américains. Donc, la question soulevée pour les propriétaires de droits de marque et qui étaient concernés par la contrefaçon, comment est-ce que vous bloquez l'accès à ces sites? Et les agences de police n'ont pas forcément la possibilité d'agir là-bas. Donc, ils ont trouvé le filtrage DNS. Et je ne vais pas aller dans les détails là-dessus, comment un site est jugé être mauvais, mais il y a un processus pour identifier les mauvais sites offshore. Et à ce moment-là, le département américain de la justice pourrait aller devant les tribunaux, avoir une requête et pour interdire, confisquer, bloquer l'accès aux résolutions IP pour certains noms. Pour le moment, ce qui se passe, c'est que le projet de loi du Sénat est passé. Ça ne va pas plus loin pour le moment. Il n'y a un sénateur maintenant qui bloque les choses, mais la commission judiciaire du Sénat devrait faire un projet de loi, mais il y aura encore la provision de filtrage DNS encore dedans. Au sein de l'administration américaine, il y a beaucoup de gens qui sont opposés et le département de Homeland Security ou certaines parties qui ont investi tant dans le DNSSEC. Patrick va décrire qu'il est incompatible avec le filtrage DNS, mais il y a d'autres parties de l'administration américaine qui sont très sensibles aux préoccupations de l'industrie du contenu et les propriétaires de marques, et ils pensent que le DNS devrait être pouvoir intégrer ces nouvelles caractéristiques de filtrage. Donc, en Europe et dans le reste du monde, est-ce qu'il y a le même type de législation? Oui. Donc, encore une fois, Patrick est du Suède. Il a peut-être une meilleure poule des choses, mais au Royaume-Uni, les Ofcom, le régulateur des télécoms, il cherchait à voir les possibilités d'introduire le filtrage DNS pour bloquer l'accès à des contenus en partie parce que c'est incompatible avec le DNS. DNS, finalement, il a décidé contre, mais il y a du contentieux. Je crois que en Belgique, le tribunal demande le filtrage DNS. Également, l'Italie dit également que c'est obligatoire, et à la suite de cela, on voit beaucoup d'utilisateurs italiens qui envoient leur serveur à Google et OpenDNS. Si on met DNS ingénieurs, on les remplace aux ingénieurs DNS, pourquoi est-ce que ce serait important ce changement? Merci. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pourquoi c'est important pour nous. Premièrement, il y a une question générique, d'ordre général, sur le fait de faire n'importe quel type de filtrage ou d'interférence avec des informations qui se échangent entre deux parties, donc le droit de l'homme, l'expression de la liberté d'expression protégée par les droits de l'homme. Ensuite, autre chose que nous ne devons pas en parler ici, c'est que Jamie a mentionné que pour avoir un filtrage, cela implique que vous devez avoir une liste, un processus décisionnel. À la suite de ce processus, vous allez obtenir une liste de ce que vous allez bloquer, ce qui est dangereux et qui ne l'est pas, d'accord? On n'a pas besoin de parler de cela aujourd'hui, mais ce sont des questions très importantes que nous ne pouvons pas ignorer dans le processus, dans son ensemble. Malheureusement, il y a beaucoup de parties qui ignorent ils créent essentiellement la confusion. Maintenant, nous avons une option, donc il y a une liste où on voulant bloquer l'accès ou limiter l'accès en tout cas. Ensuite, la prochaine question, c'est quel type d'outil allons-nous utiliser? Et le problème pour moi, c'est que immédiatement, les gens qui tireront leur propre conclusion, ils vont dire, allons utiliser le DNS. Pourquoi est-ce que le DNS est un mauvais outil et pourquoi il est mauvais avec le DNSSEC? Voilà le contexte. Si c'est le cas que quelqu'un fait du blocage à l'aide du DNS, cela signifie que l'une de deux choses suivantes se produit entre l'utilisateur final qui fait le lookup et le serveur autoritatif, il y a soit quelque chose qui bloque entièrement la réponse ou la demande pour qui se passe entre les deux parties, ou bien vous avez quelque chose qui, par exemple, modifie la réponse à quelque chose d'autre. C'est cela que je veux dire, le blocage, une de ces deux choses. Dans ces deux cas, lorsque nous utilisons DNSSEC, si le changement se passe sur le cheminement de retour, la personne qui fait la validation de la signature sur la réponse DNSSEC va détecter que quelque chose se produit. Voilà l'idée. Donc, vous avez DNSSEC comme outil pour détecter que quelque chose a été changé et on fait le blocage qui, par définition, change les choses. Voilà des choses diamétralement opposées qui devraient se poser sur le réseau. Donc, quand on a ces choses opposées, la seule manière de le faire, de manière à ce que ce soit du point de vue technique, que ça fonctionne, c'est de faire le blocage et la validation dans le même nœud. Donc, l'algorithme que vous utilisez est fait. Vous avez un algorithme, mais vous décidez où vous allez utiliser le nom de domaine. Et nous, dès ça, on a dit que la seule manière, lorsque vous faites ce type de calcul sur le type d'impact pour le blocage, il est très important que le blocage, si vous allez faire quelque chose comme ça, se produise au plus proche des franges du réseau, qu'ils puissent faire dans leur logiciel variable, sur leur navigateur. Certaines entreprises le font dans leur firewall, dans leur pare-feu, mais de manière plus c'est loin et plus le blocage se produit de manière générale. Donc, il est plus large. Donc, c'est parce que nous avons cet intérêt conflictuel et ces outils techniques conflictuels que nous avons un problème. Donc, imaginons que je navigue sur le web et je vais sur un site qui est viole les droits et DNSSEC est activé et le blocage également par le gouvernement. Et je vais sur le site et le DNSSEC va se casser parce que ça va me retirer. La chaîne de confiance est cassée. Donc, je vais probablement rien avoir. Donc, c'est OK, non? Parce que je n'ai pas pu arriver aux matériaux qui violaient les droits de propriété. Lorsque je reviens sur un site légitime, je suis sûr que la chaîne de confiance fonctionne à nouveau. Mais quel est le problème? Je crois que le problème porte sur le fait que comment l'utilisateur final font confiance au DNS et DNSSEC. L'intention générale avec de l'Internet, on a parlé sur les services qui aident la croissance de la communauté, comme les services bancaires sur l'Internet et autres services qui aident les pays moins développés à croître, c'est que se base sur que les gens font confiance aux outils, à les Internet. Et si les gens font des look-ups, des recherches qui ne réussissent pas parce que DNS échoue, ça décroît la confiance et l'utilisateur va essayer de passer outre ou bien d'éviter. Et cela donc va réduire l'efficacité des outils et ça a un mauvais impact sur la société dans son ensemble. Est-ce que cela devrait être mis en œuvre que les gens commencerait à utiliser des plugins comme Matthew5 pour Firefox et pour miner le DNS lui-même? Absolument. Alors, pourquoi ça devrait se passer? Est-ce que c'est pas que des gens qui sont hackers? Non, pas du tout. On a déjà des indications que dans les démocraties émergentes, c'est ce que les gens font. Si les gens essaient de limiter la capacité des gens à exprimer leur opinion. Ça se passe déjà, ce n'est pas quelque chose qui est à l'avenir purement. Donc, on a une pièce remplie d'ingénieurs. Peut-être qu'il y a une solution où le DNS et le filtrage peuvent coexister. Est-ce possible? Je pense, oui. Je pense que c'est possible. Mais de notre côté, je pense que cela marche que si, premièrement, l'utilisateur final ou celui qui est responsable pour le domaine, il choisit de faire la validation ou non. On pense que ça devrait se passer ici, sur mon ordinateur. Donc, moi, je fais le choix. De la même manière, je peux faire un choix, par exemple, ce que je n'appelle pas blocage, un service de répudiation, comme nous avons Rima. Je choisis moi-même quel logiciel antivirus j'utilise, quelles sont les choses que je vais être protégée. C'est moi qui décide. C'est moi qui introduis cela. C'est moi qui fais la configuration sur mon navigateur. Et lorsque vous faites la validation et la calcul au même endroit, aux franges du réseau, ça peut marcher, mais pas imposer à un tiers. Merci. Comme vous pouvez le savoir ou pas, un groupe d'ingénieurs ont formuler une lettre au Congrès américain. C'est un document très volumineux qui explique ce que Patrick dit. On enverra le lien. C'est vraiment une bonne lecture. Jamie, est-ce que cela a été pris en sérieux par l'administration américaine? Oui, ils sont très... ils ont beaucoup aidé les auteurs de livres blancs également, la lettre au Congrès. Il a vraiment aidé beaucoup à faire l'argument technique et avec pour les autres. C'est tout, les autres, ce qu'ils voient tout simplement, c'est qu'il y a un vol IP en ligne, ce qui est vrai. Et malheureusement, ils n'ont pas le niveau d'expertise technique ou d'intérêt parfois pour comprendre ce qu'ils veulent. C'est une solution rapide, ce qui est compréhensible vu la quantité de vols IP sur Internet. Ce que je dirais sur le projet de loi IP, c'est qu'il y a d'autres mesures qui font partie de ce projet de loi qui sont vraiment efficaces et qui sont efficaces dans d'autres contextes. Ce sont des provisions pour couper le flux de revenus. D'après ce que je comprends, selon les défenseurs du projet de loi, il y a un petit nombre de malfaiteurs qui doivent faire assez d'argent pour financer leurs dépenses pour colocation et l'argent de bande, etc. Donc, par contraste, il y a 14 millions de serveurs de domain name, open domain name, et des milliards d'utilisateurs Internet. Quand vous visez cela, vous n'aurez pas tout le monde. Vous allez lutter contre les malfaiteurs, mais ce qui est efficace, par exemple, dans les jeux sur ligne, c'est de couper le flot de revenus, donc les processeurs de paiement et les promoteurs de publicité. Ils veulent avoir également une solution technique et il y a la perception que ce sera efficace parce que pas beaucoup de gens essaieront de le contourner. Donc, une question finale à vous deux. J'imagine qu'il y a des gens dans cette pièce qui auront des pressions similaires au cours des mois prochains. Au Royaume-Uni, on a demandé à nos législateurs qu'est-ce que vous recommanderiez que les gens en tirent et quelles seraient les démarches par rapport à cette question? La première chose importante pour moi, c'est d'essayer d'expliquer aux gens qu'il s'agit d'un processus à multiples étapes pour trouver un système sécurisé et sûr pour le blocage, qui fait un blocage de n'importe quelle façon. Il faut avoir un processus sûr et confiant pour savoir trouver une liste de ce qui est bloqué. Ça, c'est très difficile. Il faut le voir du point de vue de la liberté d'expression. Il y a des discussions sur le Conseil des droits de l'homme à Genève. C'est très difficile, vu que vous avez cette liste, que tout le monde dans vos communautés, dans votre pays, auquel ils font confiance. Ensuite, qu'est-ce que vous faites, vu que vous avez une telle liste? Et vous devriez regarder des solutions volontaires. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui vise cette liste particulière et personne d'autre, et quel outil utiliser? Et je dirais que si vous avez cette discussion, vous n'aurez pas le résultat, que le DNS est le bon outil à utiliser. Je suis tout à fait d'accord. Et ce qui manque aux États-Unis, c'est un forum pour avoir une discussion technique franche avec des experts. Et cela doit se produire avant de passer à autre chose avec n'importe quelle solution technique. Il s'agit d'une mauvaise solution ici, mais s'il y a un lieu où des experts techniques de l'industrie, des intérêts de contenu IP peuvent se rencontrer et examiner les choses dans le détail plutôt que de faire vite pour passer une législation. C'est ce que vous faites au Royaume-Uni. Et un homme comme fait une analyse, prend son temps pour le faire. Donc, c'est une approche différente, mais je ne pense pas que c'est la dernière chose que nous entendrons parler sur cette affaire. Donc, on a peu de temps, mais est-ce que quelqu'un a des questions sur cette question et les adresser aux panélistes?
S'il n'y a rien d'autre, je suis à votre disposition jusqu'à vendredi soir. Je serai ravie d'en parler avec vous. Bien, juste pour remercier tout le monde d'être venu. Merci. Merci à tous. Donc, nous allons passer à la partie suivante de notre programme. Il s'agit du DNSSEC. Je vais demander à nos prochains orateurs de venir à la table. Et nous allons organiser un petit peu le diapo. Et d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos deux orateurs ici. Nous avons Jim Garvin d'Affilias. Vous avez entendu sûrement parler d'Affilias déjà aujourd'hui. Il va parler d'autres choses dans sa présentation. Et puis, nous avons Emiliano Casalicchio, qui est du Centre de sécurité mondiale. Et puis, il va nous parler. Organiser les diapositives et je leur laisse la parole. Bien, pendant qu'elle prépare les diapos, je vais vous dire qu'il s'agit d'une série de chiffres que je voulais vous donner. De notre point de vue, c'est difficile de tirer des conclusions de ces chiffres. C'est un petit peu comme les chiffres que vous avez vus aujourd'hui pendant la matinée. Hein. Nous essayons d'avoir trois journées de travail. Donc, si on peut tirer une conclusion de ces journées de travail, je dirais qu'il y a et des observations que nous avons faites, nous pouvons dire qu'il y a une tendance à l'augmentation. Bien, alors maintenant, ici, un petit peu d'histoire. .org est le plus grand TLD que nous avons comme fournisseur de services de registre. Nous offrons ces services depuis un peu plus d'un an. Donc, ça fait déjà 16 mois depuis que nous avons la première délégation de signe. La racine a été signée après que .org offre sa délégation de signe. Nous avons choisi de regarder quelques statistiques qui nous intéressent. Et parce que j'ai eu le temps de préparer des tableaux, nous allons voir un peu IPv4, IPv6. Je pense que ça peut vous intéresser. Bien, alors ici, vous voyez les trois derniers TLD que j'ai identifiés. C'est un peu difficile et d'analyser cela, mais on se rend compte que le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de demandes des TLD pour chacun de ces trois jours. Je pense que vous pouvez regarder cela vous-même. Hein, passons à la diapo suivante. Il est intéressant de voir que nous avons jusqu'à 5% des demandes qui arrivent venant d'origine IPv6, mais en moyenne, on parle de 3% ou moins pour la plupart des TLD, et des fois c'est même moins. Donc c'est une vision intéressante. Ce sont les chiffres totaux des demandes de DNS qui arrivent dans notre infrastructure. Donc ici vous voyez les demandes de DNS, les pourcentages pour le total des TLD pour ces trois journées sélectionnées. Je vous regarder cette diapo. Je veux vous laisser un petit moment pour la comprendre. Il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un peu plus ou moins 1%. Oui, la moyenne est de 1%. Donc, nous n'avons pas beaucoup de demandes. En général, 1% de ces demandes viennent du DS. Ici, vous voyez qu'on a pris la dernière journée du mois d'octobre Ici, vous voyez le tableau qui, avec une baisse, et on voit que il y a que le nombre de mobiles est pratiquement négligeable. Donc, ça vous montre ici la classification. Et on peut voir ici encore plus clairement ce 1%, ce chiffre de 1%. Ici, vous voyez les demandes de DS pour, et la comparaison entre IPv4 et IPv6 pour ces demandes de DS. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une grande majorité qui appartiennent à IPv4, mais on comprend aussi, on voit aussi qu'il y a des demandes de IPv6. Donc, c'est intéressant de voir ces données. Dans ce cas ici, il y a eu des demandes d'IPv6 qui étaient si mineures qu'on ne peut pas même les voir ici. Vous voyez que le chiffre est très, très bas. Et même pour IPv4, il y a très, très peu de demandes par rapport à ce que, aux chiffres que nous avons montrés pour .UK ou .UK. Hein, vous voyez qu'il y a une grosse différence. Donc, vous voyez ici qu'il y a une immense différence en ce qui concerne les demandes obtenues. C'est un choix opérationnel. Ici, vous voyez le nombre total de délégations signées. Nous avons .org ici qui apparaît parce que c'est le seul TLD qui a un chiffre absolu qui nous montre sa taille. Donc, et on peut voir, si on revient au mois de novembre 2010 et si on avance jusqu'au mois d'octobre 2011, on est en train de dépasser bon nombre de délégations .org, hein, 1300. Hein, donc, on a moins de pour la zone générale et on est près de 10 millions de domaines. Hein. Ici, vous voyez, on n'a pas mis les autres TLD sur la diapo précédente. Il y a peu de... pourcentage augmente. Vous en voyez quelques-uns ici. .UK est le premier qui a signé la zone protégée. Hein, c'est comme ça que vous dites? Donc, les pourcentages ont une façon de montrer des chiffres agréables. Hein. C'est pour ça que .org arrive un petit peu à la suite. Merci, c'est tout. Merci, Jim. Alors, nous allons passer maintenant à Emiliano, puis nous passerons aux questions. Bonjour, je suis Emiliano Casialico de l'Université de Rome et je suis associée au Centre de cybersécurité. Aujourd'hui, je vais vous donner un panorama des principaux projets qui sont destinés à défendre le cadre pour mesurer le niveau des DNS, les aider dans leur sécurité, leur santé et les aider dans leur sécurité. Je vais aussi vous fournir un exemple de deux systèmes de sécurité DNS et des chiffres et paramètres. Bien, alors, tout le monde est d'accord pour dire que le DNS est une infrastructure ambiguë, mais on ne sait pas que les infrastructures et les opérateurs d'infrastructures ont besoin d'un cadre qui leur permette de quantifier l'impact du DNS et l'évaluation du niveau de sécurité et de résilience. Nous savons qu'il n'est pas possible aujourd'hui de répondre à des questions telles que « D'accord, je suis un utilisateur final critique et je voudrais savoir si le résolveur que j'utilise est assez sûr ou si nous considérons des constructions importantes, c'est grave. Comment est-ce que je peux identifier la portion de transaction et de le niveau de sécurité de la portion de transaction sur le DNS? Comment est-ce que je peux quantifier cette sécurité, ce niveau de sécurité ou ce niveau de performance? Ou comment est-ce que je peux comparer la portion du DNS dont je dépends? Ou est-ce que je peux identifier les paramètres du DNS, de la portion de DNS dont je dépends. Et aussi, une autre question que nous essayons de, à laquelle nous essayons de répondre est que les processus critiques ont des prérequis, des exigences qui doivent être requises, hein, qui doivent être satisfaites, et nous essayons d'identifier comment et le DNS pourrait avoir un impact sur ces fonctions. Et finalement, nous savons que le DNS est solide, mais nous aimerions savoir aussi s'il est possible de l'améliorer pour réduire les coûts et savoir s'il est possible d'améliorer encore le DNS. Donc, le principal projet sur lequel nous travaillons actuellement est d'essayer de fournir une méthodologie et des outils pour répondre à ces questions. Et le résultat final de ce projet sera customisable en fonction des besoins de l'utilisateur. Et le blob pour ce tableau, hein, vous voyez qu'il s'agit d'outils qui demandent une collection de données, hein, qui demandent d'extraire des renseignements de données qui peuvent être utiles pour faire une analyse de risques et des impacts. Hein, et pour faire cette analyse, nous dépendons de ces données, bien sûr. Il est clair que la définition et les modèles et les paramètres utilisés ont été faits et seront faits si on considère que le scénario de menace pour l'utilisateur final et qui existe pour l'utilisateur final se trouve ici. Donc, nous devons l'analyser, nous devons faire un tableau. Actuellement, nous avons identifié 29 paramètres du DNS et 16 paramètres de sécurité. Nous avons catégorisé ces paramètres, nous avons classé cela et dans le DNS et nous avons amélioré la taxonomie concernant les différents points d'observation que l'on peut utiliser pour mesurer et pour comptabiliser ces paramètres. La sécurité liée aux paramètres. Alors, nous avons proposé de mesurer les probabilités d'empoisonnement du cache d'un point de vue du résolveur et la vitesse du DNSSEC du point de vue de l'utilisateur final. Donc, les premiers paramètres, hein, l'empoisonnement du cache, devrait nous permettre d'évaluer le niveau de sécurité concernant la vulnérabilité d'empoisonnement pour le résolveur et la vitesse des requêtes ou des demandes du point de vue de l'utilisateur. C'est utile pour comprendre comment une exigence fonctionnelle est importante pour ces opérations d'infrastructure et comment cela peut avoir un impact à cause du DNSSEC, de l'infrastructure du DNSSEC. Pour mesurer l'empoisonnement du cache et ses probabilités, la première série de recherches que nous faisons, de mesures que nous faisons, sont essayer de faire 6000 demandes, les envoyer à notre résolveur, et à ce moment-là, nous générons ces demandes à 27 résolveurs qui sont distribués, qui sont dans 9 pays. Nous mesurons à ce moment-là 99% des demandes et des résolveurs et leur cohérence. En particulier, ce que nous faisons sur l'ensemble de demandes que nous générons, nous recevons seulement 72% de réponses correctes. Toutes les autres demandes n'ont pas de réponse. Ensuite, après ces mesures que nous réalisons, nous devons réaliser un calcul de base. Nous injectons 10% de l'empoisonnement dans les demandes, dans notre cache, et ce nombre d'empoisonnements va donner lieu à quelque chose qui est randomisé. Et de nouveau, nous allons pouvoir compter en fonction du résolveur et nous allons pouvoir mesurer le nombre en pourcentage d'empoisonnement. Donc, des fichiers. Cela signifie que avec ces paramètres, nous pouvons mesurer le chiffre d'empoisonnement des fichiers. Le seul problème que nous avons, c'est comment montrer que le résolveur réalise cette comparaison et combien de chiffres sont vraiment cohérents et combien d'autres ont été, combien de fichiers sont cohérents, combien de fichiers ont été empoisonnés. En ce qui concerne le DNSSEC et les demandes au DNSSEC et la taille de demande au DNSSEC, nous avons fait 22 000 demandes et nous avons caractérisé les fonctions de distribution de la taille des demandes et nous avons mesuré la distribution fonctionnelle cumulative du temps de réponse. Bien sûr, lorsque la taille dépend seulement du protocole DNS, le temps de réponse dépend de tous les autres protocoles et donc ce n'est pas une mesure qui dépend seulement du DNSSEC. Mais ces mesures peuvent être utiles pour identifier, par exemple, pour savoir si les contraintes de l'empoisonnement critique sont satisfaisantes. Est-ce qu'on peut faire un contrôle, un accès à distance pour un système échelonnable et pour le DNS et si cela peut être fait avec le DNSSEC. 20% des demandes, le temps de demande ne peut pas être satisfait. Donc, pour conclure, je dirais que nous sommes conscients du fait que la communauté affronte ce problème depuis longtemps pour mesurer le DNS et l'acte de registre d'ISP pour mesurer, pour contrôler l'infrastructure. Mais ce que nous cherchons à faire, c'est d'avoir une vision plus globale du système de DNS et de couvrir, et plutôt que de couvrir des perspectives qui ne sont, et de travailler sur des perspectives qui ne sont pas encore abordées. Voilà. Et donc, nous essayons de travailler dans cette direction. Voilà. Donc, si vous voulez davantage d'informations sur ce projet, vous pouvez visiter le site Internet, le site Sécurité Globale, qui est donc un petit peu le centre de ce projet de recherche. Merci. Merci, Emiliano. Merci, John. Bien, nous avons le temps pour quelques questions. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour les questions? C'est l'information fournie par Emiliano est si claire. Hein? Bien. Ah, attendez, il y a une question. S'il vous plaît, donnez-nous votre nom, Jacques Latour. Si on revient à la diapo 7, il est écrit que 9,8% du trafic est corrompu. Ma question est la suivante. Est-ce que vous envoyez et cela dans tous les pays qui empoisonnent l'information? Non, nous empoisonnons notre résolveur et nous utilisons ces résolveurs comme référence, comme mesure de référence. Donc, nous supposons que cela peut être fiable et que si quelqu'un attaque on suppose que quelqu'un attaque notre cache pour introduire un poison. Voilà, c'est la mesure que nous réalisons. Nous n'avons pas d'accord ou de contrôle avec d'autres pays. Donc, nous ne pouvons pas faire cela autrement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Nous remercions donc nos deux orateurs.
And then we'll move on.
Et nous allons passer à la présentation finale d'aujourd'hui. Il s'agit des conséquences du déploiement de DNSSEC sur IPv6 avec Donner Hacker. Okay. Bien. Levez les mains. Qui c'est qui a un téléphone portable? Levez la main. Qui a un smartphone? J'ai vu pas mal de smartphones. Qui c'est qui a un smartphone? Seulement peu de gens ont un smartphone, je vois. Donc, rappelez-vous, vous êtes ceux qui détruisez notre Internet. Et je vais vous expliquer pourquoi. Commençons. Qu'est-ce que c'est que l'Internet? Lorsque nous allons créer un réseau avec certaines données techniques, nous allons être confrontés à certains problèmes politiques qui nous disent on ne peut pas mettre cette information à l'extérieur, nous devons la garder à l'intérieur. Il y a des gens qui vont nous dire on a besoin de ces données. Nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre puisse les utiliser. On risque donc que quelqu'un puisse accéder à ces mêmes données. Donc, nous allons construire un réseau qui sera et nous allons essayer, disons, de garder un environnement local. Cet environnement local, nous l'appelons intranet. Afin de faire cela, nous avons développé une série de technologies telles que le split DNS. Nous avons une série de vues internes et externes des nombres, des noms. Nous avons aussi le BBNS pour le VPN, pardon, pour fournir une infrastructure locale séparée de l'infrastructure globale afin d'avoir accès du réseau externe vers le réseau interne. Nous allons faire des services nécessaires et les plus importants ici. Et pour que cela fonctionne, il faut avoir un directoire avec des noms de domaine. Un véritable nom de domaine. Et si l'on a un défaut, on a une racine locale. Voilà ce qui arrive si on commence à travailler à faire un intranet. Nous avons un Internet à l'extérieur, nous avons un DNSSEC qui va traduire entre interne et externe, et nous avons des différents réseautages ou réseaux. Je vais utiliser la ligne verte pour vous montrer comment est-ce qu'on peut donc joindre ces réseaux locaux. Bien, maintenant, nous allons passer à notre problème en lui-même. Le premier impact vient de l'IPv6. L'IPv6 détruit beaucoup de nos convictions que nous avions au niveau de ces réseaux internes. Le point le plus important ici, c'est que si nous allons avoir un protocole, si nous voulons avoir ce type de choses, un protocole doit exister et cela peut être un problème. Cela peut être problématique, mais en plus, cela est problématique si vous regardez le protocole moderne. Vous allez voir que ces protocoles collectent beaucoup d'informations venant de beaucoup d'endroits. Et si toutes les zones de service IPv6 peuvent être atteintes directement à travers Internet, ça c'est on part de ce principe-là, à ce moment-là, IPv6 va détruire notre assurance que nous avons, que nous pouvons travailler au niveau local. Nous avons ici donc une autre possibilité. L'impact du DNSSEC, il enlève la racine locale. Et la discussion ici, c'est est-ce que nous allons déployer le DNSSEC? Cela signifie simplement que notre gestionnaire local doit accepter les décisions prises par ICANN. Hein, nous, avec ICANN, nous allons prendre la décision d'avoir une seule clé pour la zone route. Nous avons pris la décision d'avoir une seule racine locale, une seule racine globale, une seule racine. Et les conséquences, c'est que nous devons travailler pour un réseau ouvert. Et encore plus problématique, c'est que les grandes compagnies comme Microsoft vont déployer cela. Et tout dépend si l'on a les mêmes réseaux internes et externes. Parce que sinon, la première chose qu'ils vont faire, c'est de regarder les noms du directoire local actif ou du répertoire local actif. Et si vous n'êtes pas capable de fournir une réponse, vous ne pouvez pas vous connecter à ce réseau. Hein? Donc, il est important bien, de pouvoir le faire. Et bien maintenant, surtout toutes ces personnes ici qui vont essayer de détruire les choses, votre smartphone va changer le monde. Ce smartphone représente un conflit. Imaginez un petit peu cette clé codée pour le smartphone. Et pensez à une connexion de l'hôtel, par exemple. Ça ne marche pas si quelqu'un touche le DNS. Ça ne va pas se connecter avec le réseau local. Ça ne va pas accepter le directoire local, le système local. Et en plus, si vous ne fournissez pas d'IPv6, si vous ne leur fournissez pas d'IPv6, ils vont se réorganiser eux-mêmes. Nous avons beaucoup de technologies ici et ils pourront donc avoir leur propre travail réalisé, à moins que vous ne fournissiez la technologie nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau technique? D'abord, nous devons accepter que nous devons travailler avec IPv6 actuellement. Tout ce que nous pouvons faire, c'est le filtrer. Nous devons fournir des fibres. Nous ne pouvons pas nous cacher. C'est important. Il faut exercer, il faut accepter cela. Puisque nous devons utiliser cela, nous devons fournir une infrastructure commune de routage et nous devons pouvoir être atteignables et voir par quelle voie nous pouvons être atteignables. Cela est simple. Nous devons ensuite décider comment aborder ce problème. Si nous allons avoir différentes adresses à l'intérieur et à l'extérieur, simplement parce que nous avons et nous voulons et continuer à travailler sur des espaces légaux, nous devons utiliser un DNS splitté, le split DNS. C'est finalement très simple à utiliser. Mais de nouveau, ce que nous devons faire, c'est de trouver toutes les AP de hardware. Et nous devons, si nous ne pouvons pas le faire, nous devons créer un réseau local. Et s'il est en utilisation pendant les 10 années à venir, il y aura des questions qui vont se poser. Et il faudra encapsuler toutes ces fonctions. Voilà la situation que nous pouvons trouver pour les ressources IPv6. Donc, on a un réseau et vous voyez qu'on a un problème avec ce client terrible qui se connecte à notre réseau local, qui utilise notre réseau local et en même temps, il peut se connecter au monde extérieur. Donc, qui a la possibilité de s'occuper de cela. Personne. On ne peut même pas interdire à une compagnie de téléphone portable d'envoyer des données à une autre compagnie. Et c'est quelque chose qu'on a essayé d'éviter les excès concernant les ondes électromagnétiques. On a eu une décision de la Cour européenne une décision qui a dit que la communauté européenne n'avait pas le droit de prévenir et d'empêcher les ondes magnétiques, électromagnétiques de traverser les racines, les frontières. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on accepte cet impact? Ce à quoi on doit s'attendre, ce que l'on doit accepter, c'est que on a une communication directe à différents niveaux et nos gestionnaires vont nous demander j'ai un système que je peux connecter à un fournisseur local, je peux me connecter au réseau local, nous devons arranger cela. Si nous travaillons sur un réseau local ou si nous travaillons sur un réseau global, ça doit être la même chose. Donc, nous devons supprimer le VPN. Ils ne peuvent plus être utilisés. Nous devons avoir une identification basée sur l'utilisateur, d'autres types de services, et par conséquent, nous devons changer la sécurité, la passer du réseau au système à l'hôte, hein. Et nous devons passer la sécurité aux données parce que nous ne pouvons plus sécuriser les serveurs. Ce que nous avons, c'est que nous avons un DNS comme ressource qui peut être fiable. Donc, les ressources qui est derrière, la clé pour cela, c'est la communication. Beaucoup de choses peuvent être réalisées. On peut compter sur certaines réponses. Ces réponses peuvent être fiables. C'est très important parce que ça nous permet d'avoir une communication directe et peut-être de créer un monde meilleur. Ici, vous voyez ce que peut être un intranet moderne. Nous avons une connectivité directe avec Internet partout. Comme c'était dans les années 80, comme ça fonctionnait dans les années 80, au début des années 80. Et je dirais que, en conclusion, ce que nous devons faire maintenant, c'est de convaincre nos gestionnaires, nos directeurs, qu'ils doivent accepter que nous allons passer à un monde nouveau et que nous ne pouvons pas nous cacher plus longtemps, que nous ne pouvons pas cacher notre système, dissimuler notre système plus longtemps, que nous devons avoir une approche centralisée, une approche décentralisée presque partout, et que c'est le point le plus important pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la technologie. On ne peut plus avoir confiance dans la technologie seulement. Il faut passer de leurs réseaux locaux à des réseaux globaux. Ils doivent se concentrer sur les véritables problèmes, les données de la compagnie, les données qui doivent être transmises, à quelles personnes sont les personnes qui travaillent dans la compagnie. C'est important de commencer à identifier les gens et à leur permettre d'utiliser ces données plutôt que de créer de laisser tout le monde avoir accès à ces données. Merci beaucoup.
Thank you, Lutz.
Merci, Lutz. Nous avons le temps de prendre quelques questions avant de passer aux conclusions. Donc, si vous voulez, je vous laisse la parole. Alors, il y a des questions. Je vois des questions. Très bien. Alors, on prend vos questions. Prenez un micro, s'il vous plaît.
Maïbrahim Bahoum de NIT Sénégal. Vous avez tout à l'heure parlé de cloud et de DNSSEC. On sait que cloud, c'est une technologie future qui sera peut-être dans les années à venir très bien utilisée. Non, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que DNSSEC et IPv6 apportent en termes de sécurité pour le cloud? Merci.
Le DNSSEC se transforme actuellement Et il est basé sur des probabilités, sur des bases de données du DNSSEC. Donc, si vous avez un DNSSEC qui permet au système, vous savez que la réponse se trouve dans le système d'abord. Et même s'il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi dans ce domaine, il n'y a pas la possibilité de changer et d'avoir une réponse correcte. Donc, nous pouvons construire beaucoup de confiance sur ce système. Nous pouvons rendre les protocoles plus fiables et nous pouvons aussi rendre l'Internet plus stable dans ce cas-là.
I'm Eddie from Rwanda.
Je suis Eddie du Rwanda. La présentation que vous avez faite, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais il me semble que nous ayons des ressources internes qui sembleraient qui sont dans les nuages, même au sein de nos réseaux. Est-ce que j'ai raison? C'est un processus de transition. Pour le moment, nous avons beaucoup de données locales, mais pour le moment, nous passons au service nuage, par nuage. Regardez autour de vous, demandez combien de gens ont une adresse Google, qui utilisent Google, Microsoft comme plateforme, combien de personnes ont un système d'informatique basé sur Google, et vous allez voir Amazon, et vous allez voir combien de personnes passent de leur service de données au nuage. Mais les grandes entreprises qui vivent dans leur propre intramuros et les gens qui restent à IPv4 et qui n'ajoutent pas toutes ces couches, ce serait une erreur de rester sur ces politiques. Je ne vois aucune possibilité que quelqu'un reste là. Ça peut être fonctionner pour les prochaines années, mais nous avons déjà des clients en Europe où nous avons assez de IPv4. On a encore des clients qui travaillent sur IPv6 seulement. D'autres questions? Alors, j'aimerais vous demander de me rejoindre à remercier Lutz pour sa présentation. Maintenant, j'aimerais passer le microphone à Simon McCullough pour The Nominate. Merci, Judy. Je voulais clore en disant qu'au nom de la commission du programme, merci à tous nos intervenants et participants aujourd'hui. C'était vraiment fantastique. Donc, merci à tous. Je vais également dire que la question que nous avons eue et la session Guinness étaient vraiment parmi les meilleures en termes de participation, la participation des gens. Donc, merci à tous qui ont participé. On a vraiment apprécié. Je suis sûre qu'en parlant de tous les présentateurs, si vous aimeriez avoir davantage d'avis ou de conseils, d'assistance pour la mise en œuvre de DNSSEC, on serait très heureux de tous vous aider. Et je suis sûre que Jilly peut donner des informations de contact. On serait très heureux de travailler avec vous pour avoir que DNSSEC soit activé sur vos domaines de premier niveau. Donc, merci. Des remerciements pour aujourd'hui. Merci au staff de traduction qui ont vraiment fait bon travail pour traduire les ateliers DNSSEC. Bravo. Et finalement, pour l'ensemble de la commission, le travail qui travaille le plus et qui doit regrouper tout le monde, aller à toutes les bombes, nous parvenir aux bons endroits et Judy vraiment s'occuper de tous nos besoins. Merci, Judy. Merci à tous. Merci, Simon. Et nous avons terminé un peu à l'avance, donc voilà, vous avez quelques minutes de plus. Merci à tous. Au revoir.